Suivre dédié pour l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lane Zichrona Livracha, des mémoires bénies. Donc, deuxième cours aujourd'hui, qui est un remake d'un cours que je fais déjà quelques années, sur les preuves de validité de la loi orale. Beaucoup de gens ont tendance à dire « je suis d'accord d'écouter Dieu, mais pas les rabbins ». Les rabbins ont rajouté, ils ont mis des barrières, peut-être ils ont même modifié, et le message est tronqué. Donc on a déjà, je fais un résumé rapide du cours de la dernière fois, on a d'abord expliqué qu'il était absolument inconcevable que la Torah écrite ait été donnée sans la Torah orale, car telle qu'elle est écrite, elle n'est pas praticable. Or, Dieu ne peut pas m'ordonner de faire des choses et me menacer de sanctions terribles si je ne les fais pas sans me dire qu'est-ce que je dois faire. D'accord ? C'est beaucoup trop vague. J'ai encore pensé hier, par exemple, Shabbat. D'accord ? Tu ne feras pas de melacha à Shabbat. C'est très vague. Qu'est-ce qu'une melacha ? Qu'est-ce qui n'est pas une melacha ? Toutes les lois, en gros, 80-90% des lois ne sont pas compréhensibles s'il n'y a pas une explication qui les accompagne. Donc, on a donc bien expliqué la dernière fois qu'il y avait forcément une explication orale. Maintenant, qui me dit qu'elle n'a pas été faussée durant l'histoire ? Alors, tout à l'heure, on a donné deux arguments. Un, que la Torah écrite dans Shoftim, chapitre 17, dans Dvarim, chapitre 17, parashat Shoftim, très clairement, que nous devrons écouter les sages de notre génération, les juges, les sages qui aura notre génération, et nous ne devons pas bouger de ce qu'ils nous diront, ni à gauche, ni à droite. Donc Dieu, dans la loi écrite, nous dit, nous ordonne, donc une obligation d'écouter la loi orale, contemporaine de notre époque. Donc si quelqu'un vient et dit, je vais écouter le rabbin, moi je fais que la loi écrite, ben mon cher ami, la loi écrite te dit d'écouter le rabbin. Donc t'es bien embêté. Deuxième preuve que nous avons dit, l'épreuve de l'histoire, que tous les mouvements, absolument tous les mouvements, qui ont remis en cause, ne serait-ce qu'un petit iota, iota c'est une lettre grecque qui vient du mot yud en hébreu, d'accord, qu'un yud, une petite lettre de la Torah, tous ces mouvements en quelques siècles ont disparu de la carte juive. Quelqu'un hier, c'est David, il a dit non, mais il y a les chrétiens. Les chrétiens, ils sont pas hors de la carte. Je vais expliquer, je vais vous montrer par un argument très rapide comme quoi les chrétiens ne pouvaient pas prétendre être le peuple juif.
J'ai passé un truc hier. Oui. Il y a marqué que nous, on va être en exil. Et toute la prophétie qu'il y a eu sur nous, elle se réalise aujourd'hui.
Oui.
Mais comme je vous ai dit, c'est peut-être juste le nom qui a changé. Le nom du peuple élu par Dieu, il a peut-être changé. Qu'est-ce qu'on enseigne ?
Et alors,
on s'appelle peuple juif. Il y a marqué dans la Torah, le peuple juif, il aura ça. Mais qu'est-ce qu'on en sait que...
Il y a un peuple.
C'est pas eux maintenant qui est le travail qui est attendu par Hachem sur Terre, c'est pas par eux qu'il est fait.
Attends, le peuple juif, Bnei Israël, comme c'est marqué dans la Torah, d'accord, c'est marqué, ils vont faire des péchés, Dieu sera en colère, les chassera de la terre, ils vont disperser d'un bout du monde à l'autre. Ils ne pourront pas rester dans l'endroit où ils n'auront pas de repos pour prendre de leurs pieds, donc sans cesse en train de vadrouiller. On parlera d'eux sans cesse. Ils resteront une poignée d'hommes.
Oui, j'étais quand même.
Alors c'est qui ?
C'est super, mais super, on parle des juifs. Super, on parle des juifs. Super, hein, on parle des juifs. Mais qui me dit que ce n'est pas eux qui font le travail qu'elles ont repris là-dedans ?
Je ne sais pas comment ce que tu dis. Si Dieu, il prétend que c'est vous le peuple juif, ok ? Alors qu'est-ce qu'il demande d'eux ? Je ne comprends pas. Où c'est marqué dans la Torah ? Que eux, ils ont un boulot à faire. Si c'est nous les juifs, si eux c'est les juifs, alors c'est eux, ok, très bien, donc moi je rentre à la maison, bye bye. Mais si c'est nous.
Dans le Nouveau Testament, par exemple.
Hein ?
Dans le Nouveau Testament.
Ah, pourquoi le Nouveau Testament est faux ? D'accord, parce que la Torah interdit de rajouter quoi que ce soit à la Torah en tant qu'ordonnance toraïque de Dieu. Les rabbins peuvent rajouter des décrets, c'est marqué clairement dans la Torah. Vous ferez une barrière à ma barrière. Mais si à 613 lois, on rajoute ou on enlève. Or, vient Jésus, il y a 2000 ans, et dit, c'est pas lui, c'est après les apôtres, machin, d'accord, ils ont dit, quand Dieu dit pas manger du porc, c'est psychologiquement, c'est spirituellement parlant, il faut se purifier, d'autres choses, d'accord. On passe Shabbat au dimanche, on change tout, en deux mots. Or, la Torah ne peut pas être changée. On peut ni rajouter, ni retrancher. Cette loi est éternelle. Oui, mais nous, on a reçu une Torah qui est transmise par les grandes Torahs. Et eux se sont démarqués de cette façon de faire. Ils ont fait autrement.
Comme voilà, eux, ils leur ont dit qu'il fallait plus faire comme ça.
Ok, c'est vrai.
Mais aujourd'hui aussi, on nous dit...
Quand les raves se démarquent, d'accord, ils font un mouvement qui après devient dissident dans la mesure où tous les grands de la Torah ne sont pas d'accord avec eux, ils sont dans le faux. C'est également ce que je suis en train d'expliquer. Je vais donner un exemple qui est beaucoup plus récent, celui des réformistes. Les réformistes, à la base, c'est un mouvement religieux, super religieux. Et il y a environ un siècle et demi, ils ont voulu, par exemple, non, à l'époque, c'est pas eux, c'était dans le cadre de la communauté orthodoxe. Et là, il y a une scission. Parce qu'ils ont voulu faire quoi? Ils ont voulu mettre de l'orgue à la synagogue. Pas pour jouer Shabbat, Rassé Shalom, on ne joue pas de l'orgue Shabbat, mais lundi, jeudi, nous, on ouvre le Sefer Torah, on ouvre le Echa, on sort Torah, et comment on chante, « Ashrei Amshe Kach Alot » Ça fait un peu barbare, mais un peu d'or. « Tin, 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 Ashrei Amshe Kach » Avec l'orgue, ça fait bien. C'est
l'harmonie.
Hein, voilà, « Kvoda Torah », l'honneur de la Torah. Quoi de plus louable?
La malo.
La malo, pourquoi pas? Exactement, c'est leur argumentaire. Les rabbins ont dit non. Les dirigeants de ce mouvement-là, enfin, c'est pas encore mouvement, les partisans de cela ont dit pourquoi pas? C'est marqué où dans la Torah qu'on ne va pas jouer de l'orgue? Au contraire, c'est que dans la Torah, vous ne comprenez rien. Alors, les grands de la Torah, tous ont dit non. C'est marqué dans la Torah qu'on ne peut pas. À comment c'est marqué? C'est marqué trois fois. Dans un langage un peu différent chaque fois, qu'on ne doit pas aller bichukot agoïm, les coutumes des goïm. En soi, l'orgue à la synagogue lundi, jeudi, aucun problème. Mais vu que les goïms, ils font comme ça dans leur synagogue, c'est-à-dire dans leur temple, dans leur église, nous, on ne fait pas pour se démarquer. Comme un temps, on se prosternait à genoux, on ne le fait plus. Comme un temps, on priait comme ça, on ne le fait plus.
Je prends une batterie.
Hein ?
Je prends une batterie. Dans les églises, on prend de la batterie. Est-ce que je sais ?
Je ne sais pas si ça a très adapté la batterie. Alors, bon, on va dire, attends, Woodstock, talent, 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 on sort de toi. Hein? Ouais?
On va faire comme eux. C'est une généralité. Est-ce que c'est une généralité? Ça veut dire qu'on ne joue pas d'instrument de musique dans un lieu sacré où on prie? Ou est-ce qu'il ne faut pas jouer de l'or particulièrement?
On consultera une autorité rabbinique compétente pour statuer est-ce qu'on peut mettre de la guitare électrique et de la batterie lorsqu'on sort le Sefer Torah. En tout cas, à l'époque, c'était l'histoire de l'orgue.
C'est quoi les deux autres? Il n'y a qu'un seul, on ne peut pas jouer.
Alors, c'est comme ça. Il y a trois versets qui disent le même principe, qu'on ne doit pas suivre les coutumes des goyim. Pour Kotonotelechu, un autre verset qui dit Pepetit Nakash Acherechem, et le Rambam dit, il cite ça dans Ilchot Avodazara, chapitre 11, alinéa 1. Là, il cite les trois versets, et dit tous disent la même chose, que le juif doit se distancer, être différent du goy dans ses coutumes. Ok? Donc, maintenant, qui va maintenant statuer qu'est-ce qu'on appelle une coutume juive? Est-ce que je peux pas aller en jeans? Parce que les goyim aussi vont en jeans. Bon, la vérité, je ne vais pas en jeans non plus, d'accord? Mais je ne peux pas porter des lunettes non plus, parce que les goyim. Alors, il y a des critères, qui, quoi, comment donc, d'accord? Ça, c'est les grandes de Torah qui vont statuer, en fonction des critères, qu'est-ce qui est considéré, qu'est-ce qui n'est pas considéré. Étant donné que ces arguments ne sont pas marqués clairement dans la Torah, il y a une marge de flou. Les coutumes des goyim, ça veut dire quoi? Je ne peux pas manger non plus un flan à la fin du repas, c'est une coutume des goyim, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Les partisans du mouvement réformiste, qui n'étaient pas encore mouvement réformiste à l'époque, ils ont dit, nous on fait notre synagogue avec orgue. Et il y a eu deux communautés, une comme ci, une comme ça. Maintenant, le temps fait les choses. Après l'orgue, on va mettre autre chose. Il y a une volonté de ressembler au goyim, d'être moins fermé, moins carré, moins dans le ghetto. C'était très... Il faut quitter le ghetto, ça va, on n'est pas comme les rabbins il y a 2000 ans, il faut savoir vivre avec son temps. C'est le genre d'argument qu'on entend jusqu'aujourd'hui. Je me souviens, il y a 20 ans, j'ouvre au journal Le Monde, enfin je ne lis pas le journal, mais quand j'allais à l'époque dans les hôtels pour les séminaires, je prenais une lecture pour les toilettes, d'accord? Pas prendre ma gemara dans l'étoile, c'est interdit. Alors j'ai pris le monde, et je vois dans la colonne de gauche là-bas, le mouvement réformiste américain a autorisé le mariage entre femmes. C'est 20 ans aujourd'hui, c'est après la France, on fait ce qu'on veut. Mais à l'époque, c'était quand même assez révolutionnaire, et un mouvement juif, d'accord? À quel argument? Exactement le même argument. C'est marqué où dans la Torah? C'est marqué où dans la Torah? Entre hommes, c'est marqué clairement. Entre femmes, on n'en parle nulle part.
On en vient là, c'est-à-dire...
Attends, je n'ai pas fini. Je pose la question, mais c'est une réponse, une question rhétorique. Elle existe, la réponse. C'est marqué dans Vayikra, chapitre 18, là-bas dans Haremot, toutes les interdictions qu'on effectuait, c'est marqué au début, vous ne ferez pas les horreurs de la terre d'Égypte d'où je vous ai prise, et les horreurs de la terre de Canaan dans laquelle je vous amène. C'est quoi ces horreurs? Chazal ont dit, entre autres, en lesbienne. Ça, c'est une explication orale. Maintenant, le monde réformiste qui, après un siècle et demi, de façon catégorique, refuse tout ce qui est oral, ils disent non, on s'attache qu'au sens du texte écrit, et eh bien les horreurs, c'est quoi les horreurs? Je sais pas, c'est de faire un méchoui à l'égyptienne, d'accord, je sais pas pour eux ce que c'est, mais c'est pas ça. Donc c'est permis d'après la Torah, c'est permis. Chaque être, je sais pas aujourd'hui la droiture morale est assez floue du point du fait que le monde est parti en complète déchéance. Mais on peut comprendre, j'espère encore, qu'il est dur de faire avaler que la Torah autorise. D'accord, il n'y a aucun problème pour la Torah de se marier entre femmes. Ça sent anti-Torah, d'accord? C'est exagéré. Comment on arrive à cela? Par le fait de remettre en question l'autorité totale des grands d'Israël. Dieu a dit, vous écouterez les grands. Même si sur la gauche ils disent droite, même sur la droite ils te disent gauche. Ça veut tout dire. Et nous voyons durant l'histoire que tous ceux, et ça c'est la deuxième preuve que j'amène, c'est l'épreuve de l'histoire, que tous ceux qui ont fait autrement, il n'y en a pas un. S'il y avait un autre mouvement, si les chrétiens étaient restés une communauté juive, en tant que juive, reconnue comme étant le peuple d'Israël, reconnue en tant que juive, d'accord, ils faisaient autrement. On peut, d'accord, tu as aujourd'hui des chassidim, tu as des ashkenazim, tu as les taïm, les saradim, tu as les ménites, ils ont des coutumes différentes. On aurait pu dire, il y a d'autres façons d'être juif, comme ça, les deux sont légitimes, les deux ont leur grand, les deux. Il n'y a pas de mouvement juif, ça n'existe pas. Tu as un mouvement. Celui qui a accepté la Mishnah, après la Gemara, après les Rishonim, après le Shulchan Aruch, après les Achronim. Entre Achronim, donc les derniers rabbins des dernières générations, tu as quelques petits, comme c'est toujours le cas dans la Torah, quelques divergences d'opinion, ce qui est tout à fait toraïque et légitime, même souhaitable. Mais dans le 99,9%, on est d'accord. En plus, on est d'accord, c'est de la façon qu'on doit étudier. Ça passera forcément par Mishnah, Gemara, Rishonim, Shulchan Aruch, Achronim. Après, il y a une façon de comprendre comment ils ont dit. Mais on reste dans ce sillon-là. Et tous les mouvements qui n'ont pas accepté ça, ils sont dehors. Il n'y en a pas d'autres. Donc ça, moi maintenant, qui m'étonne, la plus grande preuve que nous avons comme quoi la Torah est d'origine divine, la plus grande, celle qui m'a fait faire chouva à moi, d'accord, quand j'avais 18-19 ans, je commençais à réfléchir sur ce point-là. Comment ce peuple peut-il survivre en exil pendant autant de temps? Une poignée d'hommes qui sont poursuivis, qui sont en milieu ambiant hostile, ou au contraire amical, qui les aident à s'assimiler. Après 3500 ans d'histoire, bon, on est en exil depuis 2500 ans, ils sont encore là, avec la même langue, les mêmes coutumes. Aucun peuple au monde n'a fait une chose pareille. C'est miraculeux. C'est qui? Qui? Uniquement les tenants de la Torah traditionnelle, ça veut dire dans la tradition la plus radicale qu'il puisse y avoir, orthodoxe qu'il puisse y avoir. Mishnah, Gemara, Rishonim, Shulchan Aruch, Achronim. Ceux qui se sont distancés de cela, juifs d'une autre façon, traditionnalistes, je ne sais pas comment, toutes les façons de faire, ils ne sont plus là. Ou en voie de disparition. Personne au monde peut venir, aujourd'hui venir et ôter une loi de la Torah. Impossible, le plus impossible qu'il puisse y avoir. Et un qui fait ça, il se fait shooter. T'entends? Shoot, le Mashiach, il vient. Et dit, maintenant, je suis venu changer une loi de la Torah. Ah, t'as un copain de Jésus, dégage. Boum! À la seconde. Je rappelle, s'il vient, il le dit de façon ponctuelle. Maintenant, pour la période qui vient, tac, tac, un mois, ça, on ne fait pas. Il y a une bonne raison, on le fait. On a eu des cas. Esther qui a ordonné de jeûner ce soir de Pessah. Shlomo HaMelech, parce qu'il a créé le temple, c'est un jour de Kippour, il a fait un festin. L'inauguration du temple. Eliyahu Navi, qui a sacrifié, enfin, sacrifice hors du temple, on n'a pas le droit de le faire au Mont Carmel. C'était ponctuel, ça, on peut. Un prophète vient, ponctuellement, on peut. Mais on change la Torah, on dit dorénavant, on change, on fait différemment. Qui es-tu? Quoi? La Torah, elle est éternelle, elle ne bougera pas d'un iota.
J'ai l'impression que des fois, pour eux, c'est même pas changer la Torah, c'est simplement changer l'interprétation. Par exemple, pour reprendre l'exemple de l'ordre dans une église, dans une synagogue, pardon, ils vont dire, voilà, ben, c'est pas
vous avez un grand Torah qui est d'accord avec vous.
Ils vont dire, voilà, on croit, c'est bon, suit comme la même façon.
T'as un grand Torah ou c'est toi avec ta petite tête qui réfléchit?
Ils vont dire, on a un grand Torah, c'est un grand Torah qui a dit ça.
C'est qui le grand Torah qui a dit ça? Le secrétaire du mouvement? C'est qui? Mais le rabbin, c'est un Duchnok ou c'est un grand rabbin? On va vérifier.
C'est leur grand rabbin.
Mais pour eux, mais c'est quoi? C'est quoi pour eux? Moi maintenant, d'accord. Moi qui suis un nul, d'accord. Je crée maintenant ma secte et je deviens légitime parce que voilà. Alors, ok, très bien. Alors, pour définir, c'est quoi un grand rabbin? Très bien. D'où t'as entièrement raison. Et c'est exactement ça le piège. Tous les mouvements qui se trompent. 10, nous, on a quelqu'un qui équivaut à vos grands rabbins, d'accord? Et on le suit, et comme ça, on est légitime. Alors, qui peut maintenant savoir un grand rabbin? Alors, des spécialistes. Va demander maintenant des grands Talmid Chachamim, qu'est-ce qui vaut ce rabbin là-bas? Aujourd'hui, il y a un mouvement, par exemple, aujourd'hui, le Dati Leumi, d'accord? Qu'on appelle ça en français, nationaliste religieux. Ils ont des Talmid Chachamim, ils ont des sages. Et on n'est pas d'accord. Tous les grands de la Torah ne sont pas d'accord avec eux. Tous. Ils disent, non, on a nos grands. Je dis, c'est pas comparable. Pourquoi c'est pas comparable? Tout à fait. Nos grands sont tous si grands.
C'était Rav Kook, ça?
Rav Kook, c'était un grand, aucun doute. Mais maintenant, on est 70 ans plus tard, d'accord. C'est qui? Bon, il y a des noms. Je connais même pas. Je connais pas.
La majorité, ils suivent Rav Kook.
Rav Kook est décédé il y a 70 ans. Je te parle maintenant. Ok, mais c'est qui le grand aujourd'hui? Il faut un grand. Le grand, il ne doit pas être mort, il doit être vivant. D'accord. Un grand qui est mort, il est mort. Terminé. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Rav Kook, s'il était là, il deviendrait fou de ce qu'il voit. D'accord. Qu'on dit en son nom. Ils ont leurs grands. Et ils disent, ce sont des grands. Mais on dit non. Comment oser dire que ce n'est pas un grand? Alors moi, j'aurais dit comme ça. Je dis, est-ce qu'il y a un chez vous, des grands de vos grands, qui connaît le chasse par cœur? Le chasse, c'est-à-dire la Gemara, le Talmud, 2700 pages par cœur, mot à mot, ta 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 ta, deuxième page, ta 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 ta, troisième page, ta 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 ta.
Pour être un grand, pour savoir ça?
Il n'y en a aucun qui sait ça chez eux. Aucun. Zéro. Zéro. Dire, sur un grand de la Torah, du monde orthodoxe, il sait le chasse par cœur, c'est une insulte. C'est une insulte. Quoi, il sait le chasse par cœur? C'est le chasse par cœur. C'est la bêtise. C'est la bêtise. Il connaît 100 fois plus que chasse par cœur. 100 fois plus. C'est incomparable. Incomparable. Rien, il n'y a pas photo. Rien.
Mais enfin, vis-à-vis de ça, vous nous donnez souvent l'exemple du livre.
Du livre
où il y a plusieurs angles du livre ou quoi que ce soit, une manière de voir la chose.
Ouais.
Du moment qu'on ne remet pas en cause le livre, et que donc il n'y a pas une remise en cause en effet de ce que dit, maintenant c'est comme on dit là, depuis tout à l'heure, c'est l'interprétation de la chose. C'est-à-dire que cette interprétation, on dirait qu'il y a une interprétation unique possible. Alors qu'en fin de compte, il y a peut-être des angles, quand vous dites que quelqu'un, par exemple, bon, un grand Torah, c'est quelqu'un qui va connaître le chasse ou quoi que ça, mais ça peut être un grand par rapport à son éthique, par exemple, qui peut être très fort au niveau du Moussa, qui peut donner justement...
Non, excuse-moi. Bah, écoute, donc,
alors pourquoi
regarde, donne un exemple. Tu vas chez le dentiste.
Juste pour finir, pourquoi cette vérité justement de dire, voilà, il y a ce point de vue-là, dans la manière de voir la chose, dans la perception même de la Torah, qui est vrai, le reste n'est pas vrai?
Parce que, comme dans chaque matière... Pour savoir où est la vérité et qu'est-ce qui est juste, on doit avoir un grand spécialiste en la matière. Tu cherches un bon dentiste. Tu as une mâchoire super compliquée, avec des dents super compliquées, il faut un très bon dentiste. Alors tout d'un coup, ta tante t'appelle, il paraît que tu as dit, écoute, j'ai une voisine, elle fait les gâteaux délicieux. Elle est dentiste, elle fait des gâteaux si bons, j'ai aucun doute qu'elle est très bonne dentiste. Tu vas la voir?
Non.
Tu lui dis, où est le rapport? Moi je veux un bon dentiste. On cherche maintenant un grand Torah, on veut qu'il soit bon. On veut qu'il soit bon en quoi? Tu me dis qu'il soit tzaddique, ça veut dire qu'un type qui a la crainte de Dieu très grande. C'est clair que c'est une des qualités d'un grand Torah. Sans ça, il ne peut pas être grand Torah. Mais ce n'est pas ça qui est le grand Torah. Qu'est-ce qu'il a? Il prie avec beaucoup de kavana, et chaque fois qu'il fait une bénédiction, Dieu l'écoute. C'est un type qui est aimé de Dieu, c'est clair. Mais c'est un grand Torah, pas du tout. Alors c'est quoi qui fait que quelqu'un est grand en Torah? Ben, c'est très simple, il est grand en Torah. Grand en Torah, ça veut dire que quand tu poses la question de Torah, tu vois sa connaissance. Sa profondeur, donc dans la largeur et dans la profondeur, il dépasse tous les gens de sa génération. Et ça, c'est pas compliqué. Je l'explique la dernière fois comment on fait pour le reconnaître. On va voir ceux qui sont déjà des grands spécialistes, on va voir tous les dentistes. Dites-moi, parmi les dentistes, qui est le top pour ce cas-là? On te dit, oh, les meilleurs dentistes du pays, c'est eux. On sait qui c'est. Voilà, les spécialistes savent parmi eux qui sont les spécialistes.
Sinon, ils ne reconnaissent pas eux. Eux, ils ne les reconnaissent pas en tant que spécialistes.
Oui, mais.
Pour la mission réglée, s'ils acceptaient.
Bien sûr, ils ne reconnaissent pas. Eux, bien sûr qu'ils ne reconnaissent pas. Bien sûr, bien sûr, parce qu'ils ont un intérêt. Eux, ils ont des raisons X, Y, Z qui font qu'ils ne veulent pas rentrer dans l'orthodoxie. D'accord ? Ils ne veulent pas ça. Ils veulent autre chose. Ils veulent autre chose. Ah, tu es bien embêté parce que tu n'as personne qui te suit, alors tu te crées quelqu'un. Et ce type.
C'est la même chose de nous.
Hein ? Ok, mais moi qui suis extérieur maintenant, je dois choisir entre le grand de ce mouvement et les grands du monde orthodoxe. Comment je peux comparer? Je vais aller voir des spécialistes en Torah qui sont des
rachis yeshivot. Les critères, c'est le truc. Chez eux, les critères, c'est...
Alors, je te donne un exemple maintenant. Eux, je te donne un exemple.
Chez les deux
parties, il y a des critères différents. Je te donne un exemple maintenant. Voilà, un exemple qui est tout bête. Demande à un de chez eux maintenant de citer de commencer à réciter le Talmud. Aucun peut le faire chez eux. Et dire que chez nous, un qui sait faire ça, c'est un grand, c'est une insulte.
Parce que c'est pas un critère chez eux.
C'est un mouvement.
Alors, je comprends pas.
C'est un critère pour dire que c'est un grand.
Alors c'est
que
quoi?
La Torah dit que c'est un critère, ça arrive de dire
je
que
je comprends pas. Je comprends pas.
Eh ben, c'est un critère.
Que signifie un grand de Torah? C'est quoi un grand de
Torah?
Il est grand en quoi? Il est quoi? Il est grand en quoi, un grand de Torah?
En Torah.
En Torah. C'est quoi un grand homme? Au moins, il connaît le texte basique par cœur. C'est la moindre des choses. Non, il est mignon. Bon, ça, on ne va pas dire qu'ils ont des descendants à ce point-là. Il y en a aussi des jeunes filles qui aiment bien aussi les rabbins mignons. Il a beaucoup de crainte de Dieu, d'accord? Il est super sioniste, il est très brave, qu'est-ce que j'en sais moi? Il en connaît beaucoup, il parle bien, il a fait beaucoup de balai de tchouva. C'est pas Hachur qui fait une bracha, c'est écouter, il fait des miracles. On s'en fout. C'est pas un quêteur de grand Torah. C'est un tzaddik, c'est un chassid, c'est un faiseur de miracles, c'est un faiseur de bracha, tout ce que tu veux. Mais c'est pas un grand de Torah. Un grand Torah, c'est un grand de Torah, c'est simple, c'est pas compliqué. Et c'est eux les grands spécialistes.
Ça veut dire que les Mizrahis sont voués à être des futurs réformistes, puisqu'il n'y a pas chez eux des grands en Torah?
On s'enfonce trop dans le débat. Regarde où ils sont arrivés aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont arrivés à un point où ils se sont associés avec les gens, on parle maintenant de gens politiques, mais on est arrivé à ça, hélas, d'accord? À des gens qui ont mis sur leur drapeau, nous voulons la fin de la Torah. Plus des chivotes.
C'est des faux Mizrahis, c'est des mecs qui ont une petite
Mais c'est tous, mais ils sont tous... Mais ils sont tous.
Mais
le mouvement, tous ces gens-là maintenant se sont associés à eux. Politiquement
oui,
maintenant.
Eux, mais
alors comment vrai. Je comprends pas. Comment toi qui te veux, qui te regarde dans une glace, t'as une barbe, t'as une kippa, tu dis la Torah, et tu t'associes coude à coude pour être les pires ennemis de l'histoire, les pires ennemis du peuple juif, parce que quelqu'un, d'après la Torah, quelqu'un qui veut éradiquer la Torah d'Israël, il est pire que les ennemis physiques du peuple d'Israël. C'est bien plus dangereux, c'est Amalek. C'est Amalek. Ceux qui sont battus contre la Torah. Amalek sont battus contre la Torah. D'accord? Comment quelqu'un qui tu comprends à quel point ils sont arrivés? Nous, maintenant, en tant que juifs, considérons qu'il faut que les yeshivot s'arrêtent. Tu imagines ce que ça veut dire? C'est ça l'essence du peuple d'Israël. L'essence du peuple d'Israël, c'est Torah. Ces gens-là disent non, c'est mieux l'armée. Tous les grands de la Torah disent non. Alors je comprends pas. Des géants de Torah, ils reconnaissent Rav Ovadia Yosef comme étant un grand géant. Sur ça, non. Rav Ovadia il a dit à Bibi, à Benjamin Netanyahu, ça me fait plus mal quand il a perdu son fils. Les décrets que l'État d'Israël veut faire contre le monde de la Torah me font beaucoup plus mal que mon fils qui est décédé maintenant il y a 3 jours. Rav Ovadia Yosef, il a dit ça à Benjamin Netanyahu. Et quand Benjamin Netanyahu est venu et consoler les enfants de Rav Ovadia Yosef quand Rav Ovadia Yosef est décédé, ils l'ont dit. Le grand rabbin d'Israël, le Rav Yosef, a commencé à dire, il a posé trop dire à son fils, son frère Rav David, dis-lui, mon père était super macpide, était très mécontent du fait que tu ne te bats pas pour empêcher ces choses-là, les décrets contre la Torah. Et moi je te dis ce que je pense, c'est pas marqué, je pense que le Rav Ovadia, il est parti pour ça. Parti pour arrêter ces décrets.
Qu'est-ce que ça va les faire arrêter? Vraiment, quoi?
C'est Dieu qui va faire en sorte que, comme il a fait jusqu'à aujourd'hui. C'est clair qu'à long terme, la Torah restera et eux disparaîtront. Maintenant, à quel point nous, on devra souffrir pour que ça se fasse? Hachem et Azor. En tout cas, pour répondre à ta question, si ce mouvement-là est arrivé à ça, c'est-à-dire où ils en sont, alors ils sont habillés en religieux, ils prient, ils ont des yeshivot, mais ils se battent contre la Torah. Alors, je comprends pas, c'est pas un non-sens.
Pourquoi
ils s'associent? Pourquoi ils s'associent?
Bah, c'est comme si nous, on va s'associer à...
Ouais, à Arafat.
Qu'est-ce qui fait qu'ils s'associent à eux, alors que nous pas?
On va dire qu'ils se trompent.
Ils ont de moins que nous, alors qu'ils étudient la même Torah que nous.
Ils se trompent, justement. Ok, on est d'accord.
Attends, il me pose une question, là. Je ne sais pas, je pourrais intéresser tout. C'est très, très, très politique. Je ne sais pas si c'est intelligent d'en parler. Peut-être oui, je ne sais, quoi faire. Je vais te dire, le fond est... Certainement chez eux, c'est clair qu'il y a des gens qui sont des grands tzadikim et des grands qui ont la crainte de Dieu, qui sont des gens qui sont justes. On les a un peu trompés dans leur esprit. Il y en a, mais la grosse majorité. Et c'est comme ça qu'est le mouvement. Le mouvement, il est un mouvement qui veut se démarquer d'un investissement trop grand dans la sainteté. Il ne faut pas pousser. Le vrai levier de tout ça, c'est qu'il ne faut pas pousser. Qui était le même levier qu'avaient les réformistes il y a 150 ans, le même levier des chrétiens, le même levier de tous les mouvements. Tous les mouvements qui ont remis en cause la loi orale, la vraie raison sous-tendante, ce n'est pas nous voulons la vérité. C'est trop dur pour nous ce que Dieu nous a demandé. Vous serez un peuple saint, un royaume de prêtres. On veut vivre aussi. On veut vivre aussi. On veut vivre aussi à côté de la belle vie. On veut rester des bons juifs et croquer la vie à pleines dents. On veut « olamazé, olamaba ». Et la Torah ne dit pas ça. La Torah ne dit pas ça. Alors chacun de nous, il est bien sûr, il est aussi dans « olamazé ». Mais dans le message, est-ce qu'on dit « olamaba » et tout le reste c'est des bêtises? Non, on dit, dans le message on dit « les deux ». C'est ça le vrai critère. Et c'est tellement important pour eux sur « olamazé » qu'ils sont prêts maintenant de mettre une croix sur le « olamaba », sur le monde de la Torah, pour que leur mouvement puisse survivre et montrer qu'eux ont raison, parce que tant que nous on est là, on leur montre qu'ils n'ont pas raison. Mais ils veulent se battre contre cela. C'est terrible, c'est terrible. Ils n'arriveront pas, c'est évident. La Torah réussira. Oui.
On comprend là par rapport aux discussions qu'il y a ou quoi que ce soit, toutes les marloquettes que ça amène, toutes ouais. ces discussions.
Aïe, 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 aïe.
Et on va dire, Hachem, tout ça, il avait une le futur. Ouais. Il savait qu'on allait arriver.
Ouais.
Parce que.
La question est ta réponse. Ah. Bah, je vous laisse, c'était le cours d'aujourd'hui. C'était que l'intro. Ta question était, hier déjà, deux fois et maintenant tu la reposes. Pourquoi Dieu, voyant tout cela, il n'a pas donné une Torah maintenant très claire? Au lieu que tu me donnes maintenant une Torah opaque, fermée, on ne comprend pas, tu me donnes Yalkut Yosef. Tu me mets chaque détail de l'alakha de A à Z, tac, 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 puis c'est infalsifiable. On a ça, on a le bouquin, voilà, tu fais, t'es dans le coup, tu fais pas, dehors, regarde, on a la Torah de Dieu. Pourquoi laisser les choses orales, l'édition, etc. La réponse, elle est la suivante. Si Dieu avait agi, et je vais répondre si j'ai le temps, deux minutes, si Dieu avait agi ainsi, la Torah a été récupérée par les menteurs. Alors, je vais expliquer autrement. Aujourd'hui, les menteurs qui viennent, les chrétiens, les réformistes, ils disent, c'est nous les vrais détenteurs de Torah. Je dis, t'es un nul. Viens, explique-moi. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as comme bouquin qui explique? Tu peux expliquer ça? Ils ont rien. Rien. Je vais raconter l'histoire de la jeune fille. J'étais lors de mon premier séminaire, j'avais 26 ans, j'étais parti en Suisse. On avait fait un séminaire à La Chaux-de-Fonds. C'est l'endroit où ils ont arrivé. Parce que Paris, c'est trop grand pour nous. La Chaux-de-Fonds, c'était le. C'est pas le trou, c'est pas le bled, c'est un peu moins que ça. D'accord? Il y avait 20 personnes. La plus jeune avait 70 ans. Il y avait un jeune de 20 ans qui était comme ça, et puis il n'était pas juif. Sur la route, on a pris le train avec mon collègue de Wacha, Chaim Sigler. Moi, je suis toujours avec une barbe discrète, il avait une grande barbe qui se voyait bien comme ça. Bon, là, Chaux-de-Fonds, c'est la région, c'est la Suisse profonde. Il y a beaucoup de protestants, de chrétiens militants. Et on est dans les deux dans le train, dans le retour. Vient une jeune fille vers nous, elle dit, vous êtes juif? Oui, vous savez, j'adore Israël, tu as été en Israël, et puis j'ai rencontré la Bible, et Jésus, et j'ai compris, c'est tellement de bonheur, ça m'a donné. Elle a commencé à nous convaincre, elle a une Bible, commence à nous convaincre. Ils ont l'argument bidon, Isaïe 53, ils souffrent de nos péchés, machin, c'est des trucs bidons, d'arguments de conversion. Elle veut nous convertir. Ben, elle est déjà passée en Israël, en mission, elle fait qu'en Israël, pas à la plage, elle est tellement Jésus. Elle est partie en Israël pour convertir des Juifs en Israël. Ils sont où les Juifs en Israël? Tout coup, elle voit ici, à La Chaux-de-Fonds, deux Juifs. Pourquoi prendre un avion jusqu'à payer un avion quelques euros jusqu'en Israël? Voilà, j'ai maintenant, elle a vite pris un billet de train, elle est montée dans le train, et voilà, histoire de... Elle est mal tombée, hein, pour nous convaincre.
Elle
alors, Rabbi Etrin, juste pour vous
comprendre. Ouais, j'imagine, j'imagine. Ouais, 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 ouais. C'est une grande militante. Alors, quel argument je vais donner ? Un argument sur ce que j'ai fait. Attendez, vous prétendez maintenant, elle avait donc une Bible, il y a deux, il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Vous prétendez que tout ça c'est donné par Dieu, n'est-ce pas ? J'ouvre. J'ouvre n'importe où, tac. Tzitzit, ou bien tzitzit, ça veut dire quoi ? Vous faites ? Je ne comprends pas, c'est le livre de Dieu ? Je ne comprends pas. C'est ça ou c'est une blague ? Réponds pas. Filine, totafot bener, c'est quoi des totafot ? Vous égorgerez comme vous l'ordonnez. C'est quoi ? Comment l'ordonner ? En deux mots, je vais prouver que le livre restait complètement fermé. Comment tu veux prétendre être détentrice du livre que tu ne peux pas l'expliquer ? C'est ça l'argument. Dieu voyant qu'il y a beaucoup de menteurs dans le monde, il y a le monde du mensonge. S'il donnait une Torah qui était claire à tous, chacun dit « ouais, ben c'est moi ». Le seul, elle est partie. Le seul.
Pourquoi parce que
le seul moyen.
Non, mais attendez, aujourd'hui, il n'y a personne qui remet en cause que ce qu'ils appellent les Kritos, l'Ancien Testament. C'est le livre, il ne remet pas ça en cause.
Oui, mais comment. Mais comment il peut prétendre être le détenteur de cette Torah alors qu'elle est inexplicable ?
Pourquoi Hachem, il a.
Il n'a pas d'explication, il n'y a aucune. Au moins, même pas une fausse.
Vu qu'il la reconnaît condensé comme ça,
ils la reconnaissent.
Ils l'auraient pas reconnu avec tous les
détails. Ils la reconnaissent, mais ils n'ont pas les détails.
Ils reconnaissent justement ce livre-là comme il est. S'il y aurait eu les détails à l'intérieur, ça vous dit que. En fait,
S'il y avait les détails, ils seraient juifs comme nous. Parce que les détails, c'est quoi ? C'est être juif, pratiquer comme nous on pratique. Ils ne veulent pas pratiquer comme nous on pratique. Ils ne veulent pas. Maintenant, le moyen de prouver qu'eux ne sont pas le vrai Israël légitime, si tu te considères comme détenteur de la vraie Torah, explique-la-moi. Comment tu te prétends détenteur de la vérité alors qu'elle n'est même pas expliquée ? Quelqu'un m'a dit une fois, alors mais si Dieu maintenant avait tout expliqué, eh bien ça aurait été très bien, ils auraient tous pratiqué, le monde entier aurait pratiqué la Torah. Alors il n'y aurait pas de possibilité que le mensonge puisse émerger. Non, il aurait émergé. Comment ? Ils auraient dit par exemple, nous on fait tout, mais Shabbat, c'est dimanche. Pas prouvé que non.
Si c'est marqué clairement.
Comment c'est marqué clairement ? Comment tu marques clairement ? Comment tu marques clairement ? Le septième jour. C'est quand le septième jour ? C'est un dimanche ou un samedi ?
Shabbat, ça pourrait être un mercredi, comme ça pourrait être un dimanche.
C'est le septième jour. C'est quand le septième jour ?
Mais déjà, non, c'est quoi le premier jour ?
Hein ?
Avant de dire c'est quoi le premier jour ?
Le sept jours, c'est le premier, celui qui est six jours avant le septième. Le septième, c'est six jours après le premier. D'accord ? Attends, commence de quand ? C'est pas marqué, c'est marqué nulle part. Nous, on a reçu en tradition que c'est Shabbat, ce qu'on appelle le samedi. Très bien. Et on sait que c'est ça. Maintenant, un menteur peut dire, écoute, moi je suis équivaut à toi. J'ai la même Torah exactement. Ne me dis pas que tu es plus détenteur que moi. Moi j'ai toute explication comme toi. Et je te dis que c'est dimanche. Qui a raison ? On ne peut pas savoir.
Non, mais justement, si Hachem dès le départ, il aurait marqué voilà, samedi.
Mais t'as des menteurs ! Comment tu peux marquer le samedi ? Comment tu marques le samedi ? C'est quand ? Comment tu marques c'est quand le samedi ?
Samedi, c'est Shabbat.
Shabbat. Attends, eux disent Shabbat, c'est dimanche.
Oui, bah oui,
qu'est-ce que tu fais ? Mais il appelle ça Shabbat, les deux appellent ça Shabbat.
Oui, bien qu'on peut interpréter de manière, alors pourquoi Hachem il a
vu
pas
que
samedi, voilà, c'est Shabbat.
Il ne peut pas, il y a des choses qu'on aurait pu magouiller, je te donne un exemple. On aurait pu faire infiltrer le mensonge, comme le cas que j'explique maintenant, parce que je ne peux pas écrire maintenant c'est quand Shabbat, parce que c'est question, tu ne peux pas, il te dit septième jour, un te dit c'est aujourd'hui, l'autre c'est demain. Qui a raison ? On peut pas écrire une chose pareille. Donc eux, maintenant, ils auraient falsifié la Torah, et aurait ôté tout moyen, si Dieu avait donné la Torah claire à tout le monde, aurait ôté tout moyen de déceler qui est le menteur, qui est le vrai détenteur de la Torah. Par le fait que la Torah est restée secrète, elle n'est donnée qu'au vrai détenteur de la Torah qui l'étudie jour et nuit dans les yeshivot, on peut les reconnaître. Pour cela que Dieu n'a pas donné la chose de façon claire. Baruch Adonai, l'homme va amener.